affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Cela fait maintenant près de 30 ans que le monde, l'Europe et la France sont sortis de la guerre froide. Depuis, l'une des tendances récurrentes est de considérer que celle-ci représentait un monde simple, une situation facile à analyser et dans laquelle il était somme toute aisé de se positionner, puisque la menace était facile à identifier et à désigner, et qu'il n'y avait donc, après tout, plus qu'à choisir l'un des deux camps qui se faisaient face. Le récent ouvrage que Georges-Henri Soutou consacre à la guerre froide de la France de 1941 à 1990, nous reviendrons sur cette date de 1941, relativise très largement cette vision, au point que l'on est presque conduit, à l'issue de sa lecture, à en conclure que cette simplicité représente une illusion rétrospective. C'est particulièrement vrai d'ailleurs pour la France, qui, comme on le sait, comme on le verra, a dans ce conflit d'un genre nouveau défendu avec une certaine constance une position originale que l'on associe volontiers au gaullisme, mais qui se révèle beaucoup plus partagée par nos dirigeants qu'on ne le croit habituellement, et dont la principale caractéristique, je parle sous le contrôle de Georges-Henri Soutou, a été de refuser de penser les relations internationales sous la seule catégorie de l'idéologie. Cette position originale, donc, tantôt dictée par les circonstances, tantôt empirique, tantôt par des intuitions géniales, tantôt par l'ignorance même, a permis à notre pays d'occuper une situation à bien des égards et spécifique, et nous dit Georges-Henri Soutou, de tirer son épingle du jeu dans un monde désormais dominé, ou plutôt alors dominé par des titans. Georges-Henri Soutou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous introduire à la complexité du monde de la guerre froide grâce à cet ouvrage publié, je le précise, chez Talendier. Je termine de vous présenter, même si nos auditeurs vous connaissent déjà. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialiste de relations internationales contemporaines et spécifiquement de la guerre froide. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et dans cet ouvrage, vous nous expliquez donc que tout était beaucoup moins simple, mais il est vrai qu'en histoire, tout est toujours beaucoup plus compliqué pour les acteurs que pour ceux qui se penchent sur l'histoire a posteriori. Pouvez-vous nous parler, peut-être en termes d'introduction, du monde qui est celui que découvrent nos dirigeants à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ?
Bien, ils découvrent progressivement, d'ailleurs, les problèmes se posent dès 44 ou 45 pour les plus perspicaces, mais ils se posent vraiment clairement pour tout le monde à partir de la guerre de Corée en 1950. Donc 5 ans d'hésitation et de tâtonnement malgré tout. Alors c'est un monde que l'on appelle aujourd'hui, rétrospectivement, un monde bipolaire, regroupé en 2 camps, l'un dirigé par les États-Unis, l'autre dirigé par l'Union soviétique. C'est une expression qui est commode, qui correspond à une certaine réalité, car il est clair que le conflit central est le plus dangereux, avec les possibilités de guerre nucléaire, disons-le, se situait bien entre ces 2 camps. Mais en même temps, l'expression bipolaire est trop simple, car aucun des camps n'est monolithique. Je reviendrai sur le camp soviétique rapidement, mais le camp occidental, bien entendu, il est conduit par les États-Unis, mais les États-Unis ne contrôlent pas tout. Ils ne contrôlent pas, en tout cas pas totalement, la politique intérieure des pays membres de l'Alliance Atlantique. en particulier, ils sont beaucoup, beaucoup occupés de la politique intérieure française, parce que c'est le cas qui nous occupe directement, mais ils n'ont pas pu éviter l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, dont ils savaient qu'il leur poserait des problèmes. Ils n'ont pas pu faire grand-chose pour accélérer, après 1948, l'alignement de la France sur ce qu'on appelle le camp occidental. Chaque fois, il s'est bien s'agi de décisions propres aux Français, quelle que soit leur division par ailleurs. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour les Allemands, qui n'ont pas du tout suivi, contrairement à ce qu'on croit, à tout moment Washington en tout. Ils ont pris leurs initiatives, en particulier à partir de la fin des années 60, avec leur politique à l'Est. On pourrait en dire autant des Italiens, même des Britanniques, considérés comme les plus proches des Américains, etc. Ça, c'est pour le monde occidental. Le monde soviétique lui-même est divisé parce que Moscou ne contrôle pas parfaitement tout. Tito s'est échappé, si j'ose dire, avec la Yougoslavie dès 1948. Plus tard, on a eu la rupture entre l'Union soviétique et la Chine communiste. Et même dans le détail, on pourrait citer d'autres exemples. Bien entendu, il ne faut pas oublier ce qu'on va appeler à partir des années 50 de plus en plus le tiers-monde, ou les non-alignés, comme ils se désignaient eux-mêmes, à commencer par l'Inde, à commencer par beaucoup de pays nouvellement indépendants, en particulier en Afrique ou au Moyen-Orient. Sans oublier les pays d'Amérique latine, dont la plupart suivent une politique essentiellement nationale. Donc la division d'un monde bipolaire n'est pas fausse, mais elle est excessive. Il faut éviter de s'y laisser prendre. Alors, en ce qui concerne la France, globalement, et je dis globalement parce qu'il y a eu des hauts et des bas, globalement, elle a été l'une des victimes de la guerre froide par le biais indirect des guerres de décolonisation. Je m'explique. Dès les années 30, on pouvait constater très clairement que l'Indochine, l'Afrique du Nord, que l'Afrique noire ne resterait pas indéfiniment dans le statut qu'avait instauré la Troisième République à l'époque coloniale. On sentait que les choses allaient évoluer. Mais il est tout à fait clair que les rivalités de la guerre froide, l'action des pays communistes, et d'abord l'Union soviétique, mais aussi la Chine, en Extrême-Orient, pour soutenir les mouvements d'indépendance anti-français, pour parler très très vulgairement rapidement, a beaucoup accéléré et durci la déconfiture de l'Empire français. La défaite de Dien Bien Phu en mai 1954, qui est une rupture essentielle pendant la guerre d'Indochine, ne peut pas se comprendre si on oublie l'aide considérable, beaucoup plus qu'on ne l'a dit en général, apporté par la Chine d'un côté et par l'Union soviétique de l'autre aux Viet Minh, aux communistes indochinois. Les canons qu'utilise le Viet Minh à Dien Bien Phu efficacement sont d'origine soviétique. Les camions qui transportent le ravitaillement du corps de bataille Viet Minh dans le nord autour de Dien Bien Phu sont des camions soviétiques conduits par des chauffeurs soviétiques. Ça ne le dit jamais, mais c'est une réalité qu'on a pu toucher du doigt. Bon. Donc, de ce point de vue-là, la guerre froide a probablement contribué, c'est pas la seule raison, mais a contribué à empêcher la France de gérer son problème colonial, pour dire les choses très rapidement, avec la même souplesse et que les Britanniques n'ont pu le faire de leur côté. Une fois de plus, ce n'est pas la seule explication, mais il ne faut jamais oublier ce facteur. En revanche, et à long terme, c'était quand même le plus important, la guerre froide a rapporté à la France, pour parler vulgairement, deux bénéfices qu'elle recherchait en vain depuis la Première Guerre mondiale. Primo, l'engagement permanent des États-Unis en Europe au profit de la sécurité de l'Europe occidentale. Si Clémenceau, en 1919, à la conférence de Paris, avait obtenu la création du pacte atlantique, il aurait estimé que l'œuvre de sa vie était achevée. je n'ai pas le temps de le développer, mais je pourrais vous apporter des choses extrêmement précises pour le démontrer. Et d'autre part, là c'est un peu moins politique que l'incorrect, on ne le disait pas officiellement, mais en fait, la guerre froide apporte un autre cadeau du ciel à la France, la division de l'Allemagne. N'est-ce pas ? À partir du moment où l'Allemagne est divisée, les équilibres en Europe sont tout à fait différents, parce que le couple franco-allemand, ou le moteur franco-allemand de l'Union européenne, comme on dira par la suite, est incontestablement, à l'époque de la guerre froide, quand même, en gros, conduit, mené, impulsé, surtout par Paris, n'est-ce pas ? Grâce à cette situation. Voilà.
Oui, c'est ce qui frappe dans... tout au long de l'ouvrage, c'est que dans cette guerre froide, une des obsessions françaises n'est pas tant la menace soviétique que la résurgence de la puissance allemande, voire même du militarisme allemand, ce qui ne laisse pas d'étonner aujourd'hui quand on se souvient de l'état dans lequel se trouve l'Allemagne à la fin des années 40, à l'issue du second conflit. Comment l'expliquer?
Il faut dire là plusieurs choses. Bon, d'abord, il y a un glissement. Au départ, c'est le danger allemand ou la résurgence d'un danger allemand direct qui obsède les responsables et l'opinion publique. On le voit par les sondages, c'est très clair, pour des raisons qu'on peut comprendre historiquement. Et puis, progressivement, on passe par une étape très importante qui est la crainte, non pas tant de l'Allemagne en tant que telle, mais d'une Allemagne, et je dis bien là, de l'Allemagne de l'Ouest, n'est-ce pas, que l'Union soviétique arriverait, pour dire les choses rapidement, à satelliser ou à faire entrer dans sa zone d'influence. Si vous prenez, par exemple, les projets européens des années 50, Schuman, Monnet, etc., et les années suivantes, ils ont deux objectifs. L'un, il est très classique, c'est essayer de mieux contrôler l'Allemagne qui est en pleine résurgence économique en l'enserrant dans un espace européen. Et l'autre, qui est un peu plus subtil, qui est tout à fait la pensée de Robert Schuman, il l'a dit explicitement, empêcher les Allemands divisés, n'est-ce pas, regrettant évidemment de l'être, hein, de n'être amenés déçus par les Occidentaux à se tourner vers Moscou, car au fond, pendant longtemps, seul Moscou détenait les clés d'une éventuelle réunification. Bon, carte que les soviétiques n'ont jamais joué à fond d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant. Enfin, c'est ainsi. Donc, menace allemande ou menace soviéto-allemande, finalement, ça revient au même d'une certaine façon pour la politique quotidienne. Le problème allemand, disons plus la menace allemande, mais le problème allemand, ça certainement est resté au tout premier plan des réflexions françaises, souvent même devant le problème soviétique. Vous avez parfaitement raison.
Ce qui est à tel point qu'on découvre que la France appuie par exemple la communauté européenne de défense ou qu'elle s'en défie, le critère c'est toujours la place qu'y aura l'Allemagne. Oui. Idem dans l'ensemble des traités, des pactes et des architectures qui sont envisagées, le point qui détermine la position française, c'est le niveau de souveraineté qui sera attribué ou non à
l'Allemagne. C'est la marge de contrôle, peut-être plus progressivement, mais au moins de supériorité, d'assurance, la marge de sécurité, si vous voulez, que l'on conservera par rapport à l'Allemagne. Ça, c'est tout à fait clair. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vraiment caché par les dirigeants français, n'est-ce pas ? C'est considéré comme évident. Et les dirigeants allemands, d'ailleurs, eux-mêmes, d'une certaine façon, l'acceptent, le reconnaissent qu'on ne peut faire progresser ces institutions européennes que si les Français sont totalement tranquilles de ce côté-là.
On a parfois l'impression que le jeu français, dans toute sa subtilité, avec de nombreuses inflexions, vise en quelque sorte une forme de statu quo, plus que des ruptures.
Alors, ça peut se prendre à deux niveaux. Il y a le statu quo confortable, trop confortable, avec le recul, puisqu'il n'a pas été maintenu. Mais ça, c'est très certainement l'un des aspects en particulier à partir des années 60. Une sorte de confort intellectuel, ça tourne tout seul. La guerre froide est quand même, après la crise de Cuba, progressivement maîtrisée par les accords de désarmement ou surtout les accords de contrôle des armements, pour être tout à fait précis, entre Américains et Soviétiques, par le dialogue permanent établi entre Moscou et Washington, les risques d'un dérapage absolument monstrueux, qui existait avant, hein, disons-le, ils existaient avant, encore pendant la crise de Cuba. Ils sont là maintenant largement réduits, ça c'est incontestable. Mais en même temps, il y a un autre sens au mot statu quo qui là est plus positif, c'est la volonté. C'est ça qui peut-être distingue les Français des Américains, les dirigeants français, des dirigeants américains, c'est l'idée que l'on peut, malgré l'existence du communisme et de l'Union soviétique et du bloc soviétique, commencer à construire un ensemble diplomatique et juridique européen assurant un minimum de stabilité ou canalisant les problèmes. C'est l'idée que la guerre froide pourra être en quelque sorte dépassée, non pas tant, comme on l'a dit souvent, par la convergence économique des systèmes de l'Est et de l'Ouest, ça c'est une idée qui est à la mode, mais qui n'inspire pas vraiment les dirigeants français. La démonstration dans le livre, je ne vais pas vous la refaire maintenant, ils comprennent bien que c'est plus compliqué que ça.
Et puis ils préfèrent la politique, non?
Mais ils font de la politique. Alors sur le plan politique, ils comprennent très bien qu'il faut engager un processus de négociation permanente sur le modèle de ce qui avait été fait, et vous allez voir pourquoi je cite cela, lors du congrès de Vienne en 1815, où on avait quand même reconstruit les bases d'un système européen, disons-le, après un affrontement épouvantable de 25 ans. Il est très intéressant de voir que dans son discours d'ouverture de la conférence d'Helsinki de 1975, Valéry Giscard d'Estaing, dans son discours, reprend l'exemple du congrès de Vienne de 1815. Et c'est vraiment de lui, car on a le manuscrit, il a rajouté ça de sa plume, on le voit parfaitement, n'est-ce pas, l'encre verte qui était spécifique de sous sa présidence. Bon, il a rajouté ça au texte préparé par le Quai d'Orsay. L'idée qu'on va reconstruire quelque chose. Et ça, c'est l'acte final d'Helsinki qui pose les règles de conduite dans différentes corbeilles, règles de conduite internationales, règles de conduite économiques, règles de conduite également en ce qui concerne la troisième corbeille, ce qu'on appelle couramment les droits de l'homme. Bon, c'est-à-dire un minimum de critères de libre circulation des idées, des personnes que les Soviétiques ont acceptées. Alors, ce n'était pas du tout leur idée au départ, mais pensant que ce serait parole verbale, et qui finalement ont eu quand même un rôle en donnant à tous les dissidents d'Europe orientale, et y compris l'Union soviétique, un instrument juridique international signé par l'Union soviétique et les autres pays de l'Est, d'une certaine façon leur donnant raison, enfin justifiant d'une certaine façon leur combat. Alors ça a été extrêmement important pour une reconstitution progressive. La preuve en est qu'au moment de la fin de la guerre froide, il y a eu une nouvelle conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui s'est tenue à Paris en novembre 1990, qui a préparé la création d'un organisme permanent qui existe toujours, l'OSCE, qui joue un rôle non négligeable, pas très connu, mais non négligeable, par exemple, très actuellement, tout à fait maintenant, dans le conflit ukrainien, n'est-ce pas, avec des observateurs, des représentants sur place, bon, et qui, d'autre part, a codifié tout un ensemble de règles, y compris pour d'éventuels changements de frontières, pour les différentes libertés, les types de relations en Europe, etc. Alors, bien entendu, c'est imparfait comme toute œuvre humaine, mais en même temps, c'est une construction qui, en 1990, ne serait-ce que ça, ensuite on verra, mais en 1990, c'est cette construction qui a permis à Gorbatchev, à Moscou, de dire aux membres de son Politburo, qui disait, mais tu es en train de tout lâcher aux Occidentaux, non, nous avons quand même un certain nombre de garanties, et en particulier la codification issue de l'acte d'Helsinki. C'est pas plus d'autres, évidemment, mais d'abord cela. Alors, on peut ensuite disserter à l'infini, mais ça a très concrètement servi à faciliter les choses pour la direction soviétique en 1990. Et ça, c'est pas uniquement, mais très largement la principale contribution de la France à la gestion du dépassement de la guerre froide.
Voilà. Mais c'est là qu'on a le sentiment que dans un monde qui est devenu très largement idéologisé, et l'idéologie peut mener à une forme d'hystérie, la France apporte une forme de raison et de profondeur historique. On le voit dans différents discours, on a l'habitude de penser à De Gaulle parlant de la Russie plutôt que de l'Union soviétique, persuadé que finalement le communisme n'était qu'un avatar qui allait disparaître progressivement. Mais on découvre dans l'ouvrage que au-delà de Gaulle, cette idée est très largement partagé dans les élites françaises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cela?
Il faut là, alors c'est toute une question tout à fait intéressante, parce qu'il faut tenir en quelque sorte les deux bouts de l'argument. Bon, d'un côté, c'est bien un combat idéologique, et en France d'ailleurs, la plupart des citoyens français, la guerre froide restait une réalité lointaine, sauf par moments, en temps de crise, mais le quotidien, en tout cas jusqu'au début, et même après, d'ailleurs jusqu'en 68 finalement, 1968, le quotidien c'était l'opposition politique entre le Parti communiste, ses alliés et les autres. Se manifestant non seulement par les élections, etc., mais par des luttes sociales extrêmement dures, par une action syndicale parfois extrêmement violente, au bord de l'émeute révolutionnaire, n'est-ce pas ? Extrêmement dure.
En 47, notamment.
En 47, en 48, et encore en 52, au moment de l'arrivée à Paris du général américain Ridgway, qui avait commandé en Corée, qui devait prendre le commandement des troupes Centre-Europe, bon, il y a eu des épisodes extrêmement durs. D'autre part, vous avez le combat quotidien des services de police et de sécurité. Vous avez dans les usines, il faut y penser, vous avez le combat quasi quotidien, enfin, tension permanente entre la maîtrise, les contremaîtres, n'est-ce pas, et les ouvriers autour des points chauds, des conflits sociaux, etc. Ce sont des réalités qui m'amènent à dire, pour ne pas préciser, mais fixer un peu les idées, 25% de Français favorables au Parti communiste, même s'ils n'en font pas partie, mais ils ont votant pour lui, grosso modo, c'est une preuve, bon. Et 25% d'anticommunistes décidés, pour les raisons à peu près que je vous l'ai dites, indépendamment même de la guerre froide. Alors ça, c'est un climat qui amène évidemment les dirigeants français à faire très attention quand ils manipulent le vocabulaire idéologique. Un dirigeant français, il y a eu des exceptions. Enfin, un dirigeant français ne peut pas se permettre d'utiliser le langage qu'utilisent certains dirigeants américains, y compris les plus haut placés, dans leurs discours, qui sont virulemment anticommunistes.
Le maccartisme n'est pas possible en France.
Le maccartisme, bon, il n'y avait pas eu des tentatives. Il ne pouvait pas prendre en France ce développement-là. Bon, d'autant plus qu'il y a quand même un phénomène de génération qui joue. Ce sont les souvenirs du temps de guerre, les sympathies du temps de guerre, de la résistance. Enfin, même ceux qui n'étaient pas communistes avaient côtoyé pendant la résistance des communistes. Et d'autre part, l'Union soviétique, elle apparaît d'abord en 1945 comme l'un des grands vainqueurs de la guerre.
Elle est, juste titre, d'ailleurs.
Elle est, mais bien entendu, très juste titre. Elle est en quelque sorte approuvée, enfin son action est approuvée par 80% des Français, d'après les sondages en 1945, c'est clair. Donc il faut beaucoup de transformations. Bon, d'autant plus qu'on n'a pas envie, personne n'a envie, sauf de rares exceptions, d'apparaître comme systématiquement pro-américain. Il y a là une distance qui a toujours existé en France, à la différence de l'Angleterre ou de l'Italie, par exemple. On est tout à fait prêt à faire front contre l'Union soviétique et le communisme, s'il le faut, mais on ne veut pas pour autant apparaître comme un client des États-Unis. C'est différent, c'est un climat différent qui contribue à expliquer la prudence. Et d'autre part, il y a, je pense, étant donné que le mouvement intellectuel français à l'époque est quand même dominé, je pense, aux écrivains, aux philosophes, dans leur majorité, enfin, pas jamais absolu, quand même dominé par un climat marxiste profond, même ceux qui n'était pas membre du Parti communiste. Le climat intellectuel était très marxisant. Hein. Je l'ai connu moi-même quand j'étais étudiant à la Sorbonne dans les années 60. Bon. Et il est évident que le climat général n'est pas un terreau favorable pour un anticommunisme politique militant ou strident. Ça, c'est clair. Là aussi, c'est une différence avec les États-Unis, voire, d'un certain point de vue, l'Angleterre. Voire même l'Italie, où les positions étaient très, très tranchées. Et dans les années 50, j'ai vécu un peu en Italie, je peux vous dire que les communistes et leurs alliés d'un côté, les anticommunistes de l'autre, c'était très clairement dit, y compris sur le plan idéologique, politique, avec des luttes verbales très, très puissantes, qui n'avaient pas vraiment leur équivalent en France.
Alors dans ce tableau-là, ce que vous décrivez aussi de façon très éloquente, c'est que les dirigeants français de l'époque, mais c'est valable pour l'ensemble des dirigeants occidentaux, ignore en réalité quelles sont les intentions de l'URSS. C'est une partie de la complexité qu'on a tendance rétrospectivement à mettre sous le tapis, mais c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle souhaite. Non, on ne sait pas ce qu'elle veut, est-ce qu'elle souhaite envahir ou pas envahir, susciter des révolutions communistes jusqu'en France ou en Italie ou pas. Maintenant, on sait un petit peu mieux.
Alors, c'est une excellente question. Alors d'abord, comment fonctionne le système soviétique ? Eh bien, ça peut surprendre. Aujourd'hui, nous savons que le système était bien sûr dirigé par le Politburo du Parti communiste, ça tout le monde le savait, mais en dessous de ce niveau-là, on ne savait pas. Jusqu'à la fin des années 70,
oui, donc c'est très tardif.
Très tardivement, on ne comprend pas que les diplomates en particulier, que leurs interlocuteurs du ministère soviétique des Affaires étrangères sont en fait des exécutants chargés de mettre en musique, en termes juridiques acceptables, des décisions qui sont élaborées à un niveau différent. Elles sont prises au Politburo, avalisées par le Politburo, mais elles sont élaborées au sein de l'énorme administration du Comité central, qui comptait, si je ne me trompe pas, dans les 9000 personnes. Département par département, en liaison avec les services secrets, en liaison avec les instituts de recherche de l'Académie des sciences pour les affaires internationales, pour telle ou telle région du monde, etc. Maintenant, on comprend mieux comment ça fonctionnait. Ça fonctionnait comme tout organigramme. Simplement, on ne connaissait pas cet organigramme. Donc, quand on parlait à un diplomate soviétique, on n'avait pas du tout l'équivalent d'un diplomate occidental. C'est à partir des débuts des années 80, fin des années 70, qu'on a commencé à dire à nos diplomates, mais essayez d'aller prendre contact avec les gens dans les instituts, les affaires internationales et les différents instituts. Essayez de voir des gens du comité central, essayez de pénétrer un peu plus dans le système pour avoir un son de cloche plus proche du processus de décision. Alors, cela étant posé, les questions ont été ininterrompues. Blocus de Berlin en 1948. Que veut Staline ? Mettre la main sur Berlin-Ouest et dans la foulée rafler toute l'Allemagne ? Ou éviter de voir les Occidentaux commencer à soutenir de plus en plus les Allemands de l'Ouest, c'est déjà net en 48, avec le risque de déstabilisation dans leur zone. En d'autres termes, est-ce que le blocus de Berlin en 1948 est une manœuvre offensive ou défensive ? Ma réponse serait aujourd'hui, les deux. Mais à l'époque, c'est loin d'être aussi clair. La guerre de Corée, alors encore aujourd'hui, elle pose bien des questions qui ne sont pas totalement résolues. Jusqu'où veut aller Staline ? Quelle est sa part de responsabilité ? Alors aujourd'hui, on sait que sa part de responsabilité est déterminante parce que Kim Il-sung n'aurait pas lancé la guerre de Corée s'il n'avait pas eu l'appui massif. Et pas seulement politique, mais matériel de l'Union soviétique. Mais à l'époque, c'était des supputations. Certains disaient non, c'est local, c'est... Bon. Et on pourrait, lors de la crise de Berlin de 1958, qui a duré pendant des années, qui a conduit en 1961 à la construction du mur de Berlin, là aussi, vous avez les deux catégories d'hypothèses. C'est purement défensif, bon, il faut les comprendre, ils ont des problèmes. Ou alors non, c'est une étape vers la prise de contrôle progressif sur l'Allemagne tout entière, n'est-ce pas ? Bon, la vérité étant d'ailleurs pas exclusive, les deux termes ne s'excluant pas en fait, c'est ce qu'on pourrait dire maintenant. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors, les Français n'ont pas eu le même accès au processus de décision des Soviétiques que ce à quoi les Américains paraissent avoir eu accès à partir des années 60, parce que leurs renseignements étaient moins efficaces, moins bien pénétrés dans l'ensemble. Bon. Mais les Français sont arrivés progressivement. Après l'échec subi lors de la crise de Suez en 1956, quand les services de renseignement français avaient très mal interprété la politique soviétique. Dans la crise de Suez de 1956, ils avaient été probablement désinformés d'ailleurs par les soviétiques. Bon. On a décidé à ce moment-là, et on sait qui, c'est le Quai d'Orsay, les militaires des services de renseignement, de ne pas chercher à pénétrer, comme on avait pu le faire avant la guerre à Berlin, les processus de décision ultime, parce qu'on n'y arriverait pas, mais à rechercher des indicateurs plus modestes, mais assez précis, au moins pour les intentions militaires soviétiques. Bon, par exemple, des mouvements de troupes dans les démocraties populaires. Par exemple, des activités qui étaient suivies à la loupe, hein, des forces soviétiques présentes en Allemagne de l'Est, dont on suivait les contacts radio, dont on suivait les exercices, dont on suivait les renforts qui arrivaient de Moscou, etc. Bon. Et c'est ainsi, par exemple, je prends deux exemples, que les services français en 1968 ont vu venir l'occupation de la Tchécoslovaquie au mois d'août, plus vite que d'autres, parce qu'ils ont observé des mouvements de troupes en RDA, qui étaient très clairs. Et dès le mois d'août, ils ont en même temps vu, beaucoup mieux que les Américains, ou en tout cas plutôt qu'eux, que ça allait s'arrêter là. Alors qu'à l'époque, beaucoup disaient, y compris le président Johnson, président américain à l'époque, que les Soviétiques allaient profiter du fait qu'ils avaient réglé leur compte à la Tchécoslovaquie du printemps de Prague, pour régler en même temps leur compte à la Yougoslavie de Tito et à la Roumanie de Ceausescu. Et on dit non, là, aucun signe ne montre, n'ont pas les moyens pour faire ça. Donc, vous voyez, on est arrivé à une sorte de soviétologie prudente, qui ne prétendait pas arriver à des résultats extraordinaires, mais qui était finalement assez juste, grâce à sa modestie, à sa patience.
À travers ces événements-là, notamment voilà, le printemps de Prague et les interprétations qui pouvaient en être faites, on a un peu le sentiment que si les Occidentaux et les Français tâtonnaient dans leur interprétation, en face, il n'y avait pas non plus une énorme machine avec des plans planifiés sur des dizaines d'années, mais que finalement l'Union soviétique, elle aussi, tâtonnait, jouant tantôt des opportunités qui auraient pu se présenter, tantôt réagissant sous un mode paranoïaque. Vous parliez de l'oscillation entre sont-ils offensifs ou sont-ils défensifs. Même lorsqu'ils sont offensifs, une des hypothèses, c'est peut-être qu'ils sont un peu parano et donc peuvent surréagir, non ?
Alors, les Soviétiques, et ça, c'est la très grande différence avec la situation actuelle de la Russie, les Soviétiques étaient convaincus, il a fallu en prendre conscience aussi, étaient réellement convaincus par leur idéologie du marxisme scientifique. Et donc, ils étaient assurés, scientifiquement, j'insiste sur ce mot qui revenait constamment, qu'à long terme, le capitalisme était condamné et que le socialisme, le communisme, triompherait partout. Comme c'était une certitude scientifique, à la limite, ce n'était pas la peine de prendre des risques excessifs pour accélérer un mouvement inéluctable tôt ou tard. Donc, la position soviétique était marquée par une sorte d'optimisme messianique à long terme, et évidemment sans aucune concession, et en même temps par une prudence à court terme dont ils n'ont pas toujours, enfin souvent, fait la preuve, n'est-ce pas ? Voilà. Alors ça, c'est un point, je pense, essentiel à comprendre et qui permettait évidemment aux Occidentaux de gérer au moins les crises à court terme, n'est-ce pas ? Parce qu'on arrivait à trouver finalement un terrain d'entente peut-être provisoire. Bon, mais c'était pas la même chose. Il a fallu du temps pour comprendre que le problème était tout à fait différent de celui de l'Allemagne nationale-socialiste. Et d'une certaine façon, les Français et les Anglais l'ont compris plus tôt que les Américains. C'était certes un régime totalitaire qu'on avait en face, mais qui ne fonctionnait pas du tout de la même façon pour la politique extérieure. Hitler était un monsieur pressé, ce qui était très dangereux. Les dirigeants soviétiques avaient dans l'ensemble le temps pour eux, estimait-il. Ça, c'est une différence tout à fait essentielle. D'autre part, comme l'on se donnait du temps, que les choses finalement duraient, on a vu dès le milieu des années 50, avant même le retour au pouvoir du général de Gaulle, certains dirigeants français dire et penser, avec l'appui de nombreux spécialistes, mais le communisme en Pologne ou en Hongrie ne fait pas disparaître les traditions nationales de ces sociétés. De même que la Yougoslavie a en quelque sorte repris sa liberté en 1948, de même des manifestations nationales d'indépendance plus grande par rapport à Moscou ne tarderont pas à se produire dans ces différents pays d'Europe orientale. Nous devons donc encourager ces tendances, évidemment, pour deux raisons. D'une part, parce que ça réduirait le danger soviétique, et d'autre part, parce que la France avait un rôle historique à jouer dans certains de ces pays, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, c'est évident. Alors là aussi, cela rejoignait assez bien d'autres éléments de notre politique extérieure, parce que pour pouvoir convaincre les dirigeants polonais et autres, sans remettre en cause les régimes communistes dans ces pays, ça n'était pas question, dans les miens en tout cas, et il ne fallait pas leur présenter un Occident trop agressif, et surtout une Allemagne revancharde. Parce que on avait compris que l'un des arguments essentiels de la présence soviétique en Europe orientale, c'était la crainte de l'Allemagne pour les dirigeants et les peuples d'Europe orientale. Ça, c'était l'argument le plus fort et le plus sincère. Donc, il fallait gérer le problème allemand, et on disait aux Allemands, soyez prudents, soyez pas provocants, parce que sans ça, vous risquez de compliquer les choses. Et il fallait dire, et c'est ce qu'on a fait régulièrement, on a fait ça régulièrement, bon, dire aux Soviétiques, vous savez, nous sommes pas du tout partisans de faire de l'Allemagne un arsenal contre vous, la jeter contre l'Europe orientale, absolument pas, nous avons tous un intérêt à ce qu'elle reste bien tranquille, bien calme. Et ça c'est un point constant, je dirais, du début jusqu'à la fin, jusqu'à François Mitterrand. Les différents présidents de la République, à partir de la Ve République, avec des nuances, des formes plus ou moins bonnes, abruptes ou pas, ont tenu le même langage aux soviétiques. Nous n'avons pas l'intention de laisser l'Allemagne compromettre la stabilité en Europe.
Et là, c'était vrai, c'était pas que du discours.
Alors là, c'était absolument exact. Ça rejoignait, si vous voulez, ça rejoignait un autre aspect essentiel de la politique française.
Alors on a vu, et vous l'avez dit, que dans ce jeu à plusieurs acteurs, la France avait trouvé une position lui permettant de tirer son épingle du jeu, d'exister, de se, peut-être même de se hisser au-dessus de sa puissance réelle. Fort bien, mais il se trouve que la guerre froide a une fin. Et une fin beaucoup plus rapide qu'imaginée. Comment la France est-elle positionnée face à cette situation, et notamment face à la réunification, maintenant que les archives commencent un peu à sortir.
Oui, oui, la question que vous posez a fait l'objet, évidemment, et fait encore l'objet de bien des polémiques, disputes, etc. Il est tout à fait clair que les dirigeants français et même les spécialistes de l'Allemagne ou des questions internationales n'imaginaient pas en 89 que l'Allemagne serait réunifiée l'année suivante. Et puis réunifiée, point barre. On pourrait multiplier les exemples qui figurent dans le livre, d'études qui prévoyaient éventuellement un rapprochement progressif entre les deux Allemagnes, mais sur une période de 15 à 25 ans, n'est-ce pas ? Et débouchant sur une sorte de confédération allemande, enfin la réunification pure et simple en quelques mois, on ne la concevait pas. Et je ne dirais même pas qu'on y était opposé, on ne la concevait pas, on ne la considérait pas comme possible. Parce qu'on ne considérait pas comme possible que l'Union soviétique lâcha la rampe aussi vite qu'elle l'a fait. Donc la France a été prise, incontestablement, à contre-pied. Alors, il y a une chronologie plus fine que l'on peut faire, qui est très intéressante. Les conversations les plus sincères avec les dirigeants étrangers qu'a pu avoir le président François Mitterrand, à mon sens, c'était avec les Italiens. Parce qu'on a les comptes rendus, et c'était avec eux qu'il était le plus détendu. Bon, il en connaissait certains depuis toujours. On ne sait pas toujours qu'il avait jumelé Château-Chinon avec la charmante petite ville de Cortona, près du lac Trasimène, au nord de Rome, en 1946. N'est-ce pas ? Il y allait souvent, ça je peux vous le dire, et rencontrait là des dirigeants italiens. Enfin, bon, il connaissait tout le monde. Il connaissait très bien le président du Conseil au moment de la réunification, Giulio Andreotti. Les deux hommes s'entendaient, compte rendu. Enfin, c'est un plaisir pour l'historien. Et début 1990, Mitterrand reçoit les hommes d'État italiens à Paris et oui, on ne va pas laisser les choses se faire comme ça. L'Allemagne ne peut pas être réunifiée comme ça purement et simplement. Il faut beaucoup de garanties, il faut du temps, enfin bref, bon. Et puis, Kohl va à Moscou début février. Il conclut l'accord essentiel, il y en aura d'autres après, mais c'est le point de départ de l'accord essentiel avec Gorbatchev. Mitterrand comprend que maintenant ça va aller très vite. Ça ne le ravit pas, mais enfin il le comprend. Il revoit Andreotti quelques jours après, à peu près, ces deux visites d'Italiens entre ces deux. Bon, entre le voyage de Kohl à Moscou, c'est fascinant. Et il dit à Andreotti, qui pense encore qu'on peut arriver à freiner les choses, il dit non, maintenant c'est fini. Bon, Gorbatchev a lâché, alors maintenant ça va aller assez vite. Alors, il mènera encore un combat de retardement, mais la dernière. Étape dans l'évolution de François Mitterrand, qui a évolué. Il a évolué, il ne faut pas dire qu'il était dès le départ favorable à la réunification, non. Hein, bon. Mais incontestablement, il a compris plus vite que Mme Thatcher, par exemple, pour prendre un exemple comparable, incontestablement plus vite. Hein, c'est bon. Et ce sont les élections en Allemagne de l'Est, au mois de mars, 18 mars, si je ne me trompe pas, 1990. Car on pensait, les augures, les sondeurs, tout le monde pensait que ces élections seraient gagnées en Allemagne de l'Est par le parti social-démocrate, qui était partisan d'une réunification prudente, conservant même certains aspects de l'ancien système de la RDA, et dans une vision, je ne dirais pas neutraliste, mais enfin, voulant vraiment dépasser la période de l'atlantisme, etc. Et puis ça, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est la victoire de la CDU du chancelier Kohl, c'est-à-dire d'une vision de la réunification et de la pré-réunification très différente de celle de la SPD, très différente. Alors là, Mitterrand comprend et il lance immédiatement, c'est concomitant, l'exercice diplomatique qui va conduire au traité de Maastricht 2 ans plus tard. Donc, puisqu'on ne peut plus compter sur Moscou pour contenir une Allemagne qui est en train de se réunifier, eh bien, on reprend une autre formule qui était présente depuis les années 50, une construction européenne pour encadrer l'Allemagne, même si les choses changeaient. L'expression « encadrer l'Allemagne » n'a plus le même sens, évidemment, en 1990 qu'en 1950, c'est clair, n'est-ce pas ? Les positions sont différentes. Mais malgré tout, l'idée d'un cadre pour éviter des aventures est toujours présente.
Oui, il y a des continuités absolument incroyables qui sont peut-être dictées par la géographie même,
le poids respectif
des pays. Ce qui conduit à penser que, décidément, observer les relations internationales sous l'angle de la seule idéologie est une bêtise dont il faut se prémunir, non ?
Il faut à la fois ne jamais oublier l'idéologie. Il n'y en a jamais eu seul à l'œuvre. Hein. Bon, c'est essentiel parce qu'elle constitue quand même un cadre d'organisation mentale et d'organisation des institutions, etc. On a toujours une idéologie, même si en France c'est une idéologie républicaine qui n'est pas de la même nature. Vous ne pouvez pas comprendre la France actuelle sans avoir en tête quand même cette forme même un peu atténuée de vision idéologique. Ça ne comprend pas. Donc il ne faut jamais oublier l'idéologie ou même les idéologies. Mais bien entendu, à côté de ça, il y a le poids de l'histoire, le poids de la géographie, le poids des mentalités qui évoluent beaucoup plus lentement. Une question idéologique peut évoluer, se transformer en quelques mois ou quelques années. Une mentalité à long terme, par exemple la vision que l'on porte sur les voisins, sur les alliés, sur l'ennemi, soi-disant héréditaire, etc. Ça, c'est quelque chose qui perdure beaucoup plus longtemps. Il faut des générations pour changer certains de ces éléments, je dirais culturels, ou certaines représentations en profondeur. Donc on a affaire à deux échelles de temps différentes. Et l'homme politique qui veut essayer d'arriver à peu près à, sinon maîtriser le cours de l'histoire, enfin du moins surfer intelligemment sur le cours de l'histoire, il aura toujours à trois échelles chronologiques en tête, l'échelle très courte de la politique au jour le jour. Parce que ça, si vous perdez l'élection suivante, vous n'allez pas faire de la grande politique. Vous
êtes dehors. De plus en plus courte. Là.
Bon, mais elle devient de plus en plus courte à cause des médias, à cause de... Bon. L'échéance un peu plus longue, malgré tout, des mouvements d'opinion, des idéologies. Certaines ne se présentent pas comme des idéologies, mais enfin sont quand même, finalement, aussi des formes d'idéologie. Et puis, les mouvements à plus long terme, qui sont liés aux évolutions sociales, économiques, aux mentalités, évidemment, aux représentations, aux évolutions culturelles. Et c'est tout l'art de la politique. À ce niveau-là, il faut être capable d'avoir une espèce de vision combinée de ces différentes échelles.
Alors, pour surfer sur l'histoire, justement, on a vu que pendant cette période ô combien complexe, finalement, de la guerre froide, la France avait réussi à avoir... non seulement un sens des opportunités, mais une véritable stratégie poursuivie dans la durée. Dès lors que ce théâtre-là s'est effondré, la réponse, vous nous dites, de François Mitterrand, c'est un approfondissement du processus d'intégration européenne. Et quoi d'autre, ai-je envie de dire, et quoi d'autre? A-t-on une autre stratégie que simplement celle-là pour exister? Et laquelle, dans ce nouveau monde?
Alors là, bon, là on entre dans quelque chose de tout à fait différent, mais il faut quand même reprendre, si vous voulez bien, les problèmes les uns après les autres. Bon, d'abord, nous n'évacuerons pas le problème russe, tout simplement parce que beaucoup de nos partenaires européens en sont actuellement, à tort ou à raison, peu importe, mais ils en sont de fait obsédés. Un responsable français ne veut pas être pris au sérieux, où que ce soit dans les pays baltes, en Europe orientale, enfin centrale, disons, en Allemagne ou en Angleterre, s'il ne pose pas bien le problème russe. Ça, c'est bon. Donc, il faut avoir là un jugement sur les évolutions complexes et de ce pays et de ses relations avec le monde occidental et l'Europe. La guerre froide est finie et néanmoins certaines structures d'organisation, certaines représentations du monde qui existaient dans l'ancienne Union soviétique n'ont pas disparu. Alors, si vous regardez les institutions militaires, les organisations de services secrets, etc., c'est évident. Si vous regardez certains réflexes, n'oubliez jamais une parole prononcée un jour en public, en tout cas, il y avait des Occidentaux présents par Khrushchev, vers 1960, qui n'était pas un grand intellectuel, mais qui, un certain flair, il disait ce jour-là, n'oubliez jamais que les Occidentaux, n'oubliez jamais que les Allemands se sont opposés à nous, pas parce que nous étions communistes d'abord, mais parce que nous sommes slaves. Alors ça c'est le genre de raisonnement ou de réflexe, heureusement c'est un réflexe, qui n'a certainement pas disparu aujourd'hui. Non, il faut l'avoir en tête, il faut l'intégrer. Bon, je prends un autre domaine, là ce sont les rapports avec ce qui est convenu d'appeler le tiers-monde. Et là, il faut au contraire se dégager d'une vision issue du temps de la guerre froide, où le tiers-monde était synonyme de monde sous-développé, ou en développement, comme on disait poliment, qu'il fallait aider, qu'il fallait soustraire à l'influence soviétique, ce qui, évidemment, en Afrique, du point de vue français, se comprenait très bien. Les Français ont multiplié des opérations toute nature en Afrique pour éviter que l'Union soviétique n'y mette encore plus le pied, ça aussi. On pourrait en parler, enfin, on ne peut pas tout dire. Alors, maintenant, ces problèmes se posent différemment, parce que certains de ces pays dits sous-développés ou en voie de développement ont maintenant, je pense en partie aux pays du Moyen-Orient, des moyens financiers tels qu'ils commencent à exercer en Europe, en général et en France en particulier, une influence qu'on a commencé les plus perspicaces, la voyait se dessiner à partir du premier choc pétrolier en 73, par là, tiens, ils vont pouvoir, avec leurs moyens financiers, maintenant réaliser l'opération. Mais ça a pris une dimension qu'on n'imaginait absolument pas. Il est évident que là, il faut, bien entendu, être conscient des problèmes, mais comprendre aussi qu'ils évoluent très vite. Dernier exemple, si vous le voulez bien, les rapports, question centrale, les rapports avec les États-Unis. Alors là, c'est probablement la révision la plus déchirante, parce que les Occidentaux étaient, les Européens occidentaux étaient habitués à avoir leur sécurité assurée à ses bons comptes, hein, quand même dans l'ensemble par les États-Unis. D'autre part, une sorte de suprématie culturelle et économique des États-Unis ne déplaisait pas aux Européens. Sur le plan économique, ils n'étaient pas, même au détriment de leurs intérêts, on peut le démontrer. Quand le président Trump explique que les Européens font l'économie des dépenses de sécurité grâce à l'engagement des États-Unis dans l'OTAN, n'a pas totalement tort, disons-le. Bon. Et quand le président Trump critique les exportations européennes, il exagère évidemment considérablement. Enfin, en même temps, l'Europe occidentale a bénéficié avec les États-Unis d'une source d'innovation technologique à peu près illimitée. Regardez tous les appareils qui sont autour de nous. Enfin, imaginez, pensez ça sans les États-Unis, hein, c'est pas ce que ça donne. Bon. D'un marché quand même considérable pour nos produits, et surtout d'une garantie de sécurité en or. Alors ça, cette équation qui avait été construite très intelligemment par les dirigeants de la 4e République, Jean Monnet en tête, n'est-ce pas, qui avait plus ou moins confusément compris tout ce que je viens de vous dire, même assez précisément compris tout ça, c'était l'affaire du siècle. Tout ça, maintenant, ça va être remis en cause. Trump ou pas Trump, hein, je me permets d'insister là-dessus, ce sera forcément remis en cause, même par ses successeurs, tout à fait différents de ce qu'il est éventuellement le jour venu. Et là, ça incite aussi à un très sérieux effort de réflexion. Faut-il construire une solidarité européenne, une sorte de bloc, pour essayer de contrôler tous ces problèmes? Pas très facile. Faut-il essayer de retrouver un terrain d'entente plus équilibré, disons-le, plus équilibré avec les États-Unis, entre Européens et Américains, enfin, bon. Et nous jouons bien sûr notre rôle là-dedans. C'est la solution pour laquelle moi je plaiderais. Parce que dernière fois, on a essayé, c'est le sujet de mon prochain livre, je me permets de l'annoncer.
Parfait.
On prendra rendez-vous pour l'émission, si vous voulez bien. Mon prochain livre sera consacré au plan européen des puissances de l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale. La dernière fois qu'on a essayé de faire une véritable Europe puissance bien fermée, bien constituée contre tout le monde, c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale du côté allemand. On ne peut pas dire que c'était un succès, et surtout que cette politique ait emballé tous les Européens loin de là. Hein. C'est pour ça que je plaiderais pour reconstruire patiemment, prudemment, une relation inter-occidentale, rééquilibrée, incontestablement rééquilibrée, bien entendu, sur tous les plans. Mais malgré tout, ça me paraît la meilleure façon, de répondre à votre question, de répondre aux défis qui se présentent à l'Est, qu'il ne faut pas sous-estimer, le problème russe est bien réel, aux défis qui se présentent au Sud, et également aux problèmes chinois. Je n'ai pas évoqué, mais il suffit de voir la pénétration économique chinoise. Les Européens, s'ils pensent pouvoir régler tous leurs problèmes économiques en se ruant à Pékin, à mon avis, réagissent à très court terme.
Bien écoutez, cette ouverture paraît une excellente conclusion. En filigrane, ce que l'on comprend, c'est que le monde n'était pas bloqué sous la guerre froide, il ne l'est pas non plus aujourd'hui, et pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il n'est pas inutile de se pencher, contrairement à ce qu'on croit habituellement, dans l'ancien monde, celui du monde bipolaire, qui continue d'irriguer par les représentations, les idéologies, mais aussi les réalités géopolitiques et mémoriales, les enjeux de demain, certainement. Et c'est pourquoi je me permets d'inciter nos auditeurs à se plonger dans cette longue plage d'histoire en consultant et en lisant « La guerre froide de la France de 1941 à 1990 » par Georges-Henri Sautou aux éditions Talendier. 1941-1990, cela prouve bien que l'histoire est un continuum. 41, c'était avant la guerre froide, et après 90, les éléments continueront à être vus. Merci à tous de votre fidélité et merci à vous, monsieur, d'être venu. Bien entendu, vous viendrez nous exposer votre prochain livre aussitôt qu'il sera paru.
Très volontiers, merci. Thank you.